Monsieur le Président, vous êtes arrivé au pouvoir dans la vague de la révolution de la dignité pendant l'hiver 2013-2014. Mais presque un an et demi après, il semble que les Ukrainiens attendent encore les réformes pour lesquelles ils se sont battus.
Dans un contexte de guerre et d'augmentation des dépenses de défense, il n'existe pas d'autre cas où un gouvernement ou un président a mené des réformes avec succès. Mais nous, pendant la guerre, nous avons réduit les déficits budgétaires, nous mettons en œuvre la décentralisation du pays, nous établissons l'état de droit, nous conduisons une réforme très difficile du système judiciaire, nous luttons contre la bureaucratie et l'oligarchie. Ces réformes sont très douloureuses et nous mettons notre réputation en jeu pour changer le pays.
Mais la richesse nationale de l'Ukraine est moins élevée aujourd'hui qu'en 1990, à la fin de l'URSS. En fait, quel avenir pouvez-vous proposer aux Ukrainiens?
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui éprouve une vraie nostalgie de l'URSS. Les résultats des dernières élections présidentielles et parlementaires ont démontré cela très clairement. Mais vous avez raison, notre richesse nationale a diminué. Et il y a une explication très simple. 25% de la production industrielle en territoire occupé, 10% du revenu industriel a physiquement été détruit par la guerre ou bien démonté et transporté vers le pays agresseur, la Fédération de Russie. Et dans le même temps, en parallèle de l'agression de l'Est de mon pays, en plus de l'annexion de la Crimée, les Russes nous ferment leur marché. Ils ont lancé une guerre commerciale de grande ampleur contre l'Ukraine. Nous recherchons activement des marchés de substitution, mais c'est peut-être la pire des épreuves que nous inflige l'agresseur.
Les hostilités qui se poursuivent dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, sont un véritable obstacle au développement économique et aux réformes. Pourquoi ne pas tout simplement céder la région à ceux qui la veulent?
C'est un territoire ukrainien. Il y a 4 millions d'Ukrainiens qui y habitent. Ils subissent la pression des troupes russes qui occupent mon pays. Nous autres Ukrainiens, nous n'avons aucun problème pour trouver des compromis entre nous. C'est la propagande russe qui tente de présenter cela comme un conflit interne aux Ukrainiens. Non, c'est une véritable agression contre mon pays. Et à l'heure où nous parlons, il y a 9000 soldats russes équipés des armes russes les plus modernes qui occupe mon territoire. Et plus de 60 000 soldats russes occupent la Crimée. C'est une violation brutale du droit international et il est impossible d'abandonner la moindre parcelle de mon territoire.
La nouvelle loi sur la décentralisation donne plus de pouvoir aux collectivités territoriales, notamment dans les territoires séparatistes. Malgré cela, vous continuez d'appeler les représentants pro-russes des terroristes. Pouvez-vous dialoguer, voire travailler avec eux?
Si ces personnes ne tuent pas d'Ukrainiens, alors elles bénéficieront d'une amnistie après la tenue des élections. Cela, je ne les appelle pas terroristes, mais criminels. S'ils sont tués, ils doivent être tenus responsables. Sinon, c'est très simple. Nous organiserons les élections, il y aura une loi d'amnistie.
Vous dites que les Ukrainiens se battent pour la sécurité de tout le continent européen. Qu'attendez-vous, en fait, de vos partenaires occidentaux dans ce combat?
Premièrement, nous avons besoin de la solidarité européenne avec l'Ukraine. Nous l'avons déjà. Deuxièmement, nous avons besoin d'une unité transatlantique. C'est une violation brutale du droit international, un danger global pour la sécurité mondiale. Troisièmement, nous avons besoin de soutien financier pour les réformes. Le problème principal des Ukrainiens est qu'ils abhorrent l'idée de vivre dans cette espèce d'empire soviétique. Ils se considèrent eux-mêmes comme une nation européenne. Ils veulent à tout prix mener ces réformes à bien. Quatrièmement, il faut un mécanisme pour motiver l'agresseur à remplir ses obligations. Ce sont les sanctions. Ce n'est pas fait pour punir qui que ce soit, mais c'est ici pour motiver l'agresseur à remplir ses obligations, à retirer ses troupes et ainsi de suite. Et cinquièmement, une coordination effective et efficace pour l'application du plan de paix de Minsk.
Et est-ce que vous pouvez compter sur la participation de la Russie et sur la mission d'observation de l'OSCE comme outil suffisant pour assurer l'application du plan de paix?
Sur les questions de désescalade de la situation, du cessez-le-feu immédiat, du retrait des troupes, ni la Russie ni les terroristes qu'elle soutient ne mettent rien en œuvre. À cause de tout cela, nous devons avoir une force de maintien de la paix, parce que la mission de monitoring de l'OSCE est d'une importance vitale pour nous. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, 1er août, c'est le 40e anniversaire des accords d'Helsinki, la création de l'OSCE. C'était un mécanisme créé pour assurer une méthode européenne civilisée pour garder la sécurité et la stabilité du continent. Le même jour, à Moscou, le ministère des Affaires étrangères russe a publié un communiqué sur les 40 ans de l'OSCE en disant que l'annexion de la Crimée était légale. C'est comme cela qu'ils voient la situation. Nous, le monde entier, nous avons voté au Conseil de sécurité de l'ONU pour demander la création d'un tribunal sur le MH17 et la Russie, complètement isolée, a utilisé son droit de veto pour l'empêcher. Ce veto est la reconnaissance de la responsabilité russe dans cette attaque terroriste.
Vous parlez beaucoup de l'agression russe, mais à l'intérieur de l'Ukraine, les bataillons de volontaires sont devenus un véritable contre-pouvoir à l'autorité de l'État, à votre autorité. Le groupe ultranationaliste Pravi Sector, notamment, a été au cœur d'une véritable guerre de gang dans l'ouest du pays début juillet. Comment empêcher que ces groupes ne deviennent un État dans l'État ?
Au cours de cette année, nous avons construit une des meilleures et une des plus puissantes armées d'Europe. Pas de doute là-dessus. La plupart des volontaires a été intégrée dans l'armée, la garde nationale, et ils ont renforcé notre sécurité et notre défense. Malheureusement, quelques criminels se servent du nom de ces groupes patriotes pour conduire leurs crimes. Mais ce sont des criminels. Ils n'ont aucun fondement politique. Et la réponse de l'État doit être la suivante. Ils doivent être considérés comme des criminels.
Pour préciser, Dmitro Yarosh, le chef de Pravi Sector, a pris la défense de ces hommes que vous appelez criminels. Est-il lui aussi un criminel ?
Non, nous avons des positions radicalement opposées. On peut avoir un parti politique qui peut être radical. Heureusement ou malheureusement, c'est un élément de la démocratie. Mais si ces partis politiques font semblant d'avoir des unités armées, c'est illégal. Et ces gens sont traités comme des groupes armés illégaux.
En tout cas, cette affaire a montré que vous ne contrôlez pas vos frontières et qu'il existe une contrebande importante. Croyez-vous qu'il est encore possible d'obtenir une abolition du régime de visa Schengen pour les Ukrainiens afin qu'ils puissent voyager librement en Europe ?
Nous avons la confirmation que l'incident est terminé. Nous avons assuré la paix et la stabilité. La réaction des autorités ukrainiennes a été rapide et efficace. Le problème n'est pas quand la contrebande existe, c'est quand l'État ne lutte pas contre le phénomène. Ce n'est pas la particularité de l'Ukraine, c'est un problème pour de nombreux pays. Et c'est seulement à travers la collaboration que l'on peut produire des résultats rapides. Cet incident qui a duré pendant un ou deux jours n'affecte pas la perspective d'abolition du régime de visa voulu par l'Ukraine.